écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, bonjour. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur. Bienvenue dans l'émission Science et Conscience avec François. Aujourd'hui, nous allons retracer une petite histoire de l'histoire de la vie.
Agora Côte d'Azur présente
Science et Conscience.
François Conneaux.
Oui, alors je ne vais pas parler de l'histoire de la vie, ça nous emmènerait bien loin pour qu'on puisse faire une émission sur le sujet, mais on va parler de l'histoire de la vie. À en lire, à en écouter les médias, même les médias de vulgarisation lorsqu'ils sont bien pensés, lorsqu'ils font de la vulgarisation scientifique, eh bien on pourrait avoir l'impression de nos jours, l'impression trompeuse, que certaines questions scientifiques sont réglées, pour de bon. Et que donc toute la diversité de points de vue ont été exprimés, et que du coup, les scientifiques sont tous d'accord sur un même point. Alors nous reviendrons peut-être dans une autre émission sur les mécanismes qui conduisent ainsi le grand public à être trompé, on va dire, sur l'état de la culture et du débat scientifique. Hein. Mais en attendant, on va simplement remonter sur, prendre un exemple, on va dire, autour des discours sur les origines et sur l'histoire de la vie, qui est un bon exemple de débat scientifique qui aujourd'hui est encore complètement ouvert. Mais quand on regarde dans les débats, on va dire, médiatisés, on a l'impression que tous les scientifiques n'ont qu'une seule vision sur la manière dont la vie est apparue. Ce que je dis, c'est pas en l'air. Hein. Allez prendre simplement les programmes scolaires, par exemple. Si vous prenez les programmes scolaires, pratiquement, il n'y a pas de débat dans les manuels scolaires. On dit la vie est apparue sur Terre. En tout cas, les scientifiques sont d'accord pour dire que la vie est apparue sur Terre. Fin de la discussion. Voilà. Et tout candidat qui oserait s'interroger sur les alternatives en disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui pensent différemment que la vie ne serait pas apparue sur Terre ou qu'elle aurait été transférée sur Terre par un moyen ou par un autre, poser la question revient à être versé dans des catégories très infamantes et très à la mode, comme celle des sectaires désuets, les créationnistes. Ou encore pire, celle des complotistes. La vie vient de l'espace, mais par des aliens. Voilà. Non, en fait, on ne va pas parler de ça, bien entendu. Mais tout simplement, si vous regardez d'abord très attentivement le paysage de l'histoire des sciences et des idées, ce qui fait l'unanimité est en fait un trompe-l'œil. Hein. Comme on l'a souvent dit dans cette émission, il faut d'abord bien être conscient d'une chose, c'est que nos lointains ancêtres durant l'Antiquité, on va dire pour prendre la pensée occidentale, l'Antiquité gréco-romaine, savaient, que la Terre n'était pas la seule planète dans l'univers, ils pensaient même qu'il y en avait une infinité, et que deux, ils pensaient même que le monde était presque symétrique, c'est-à-dire que toutes les planètes étaient habitées et par des gens à peu près similaires à nous. Donc, cette hypothèse s'appelle l'hypothèse de la pluralité des mondes, et en fait, elle est omniprésente dans la littérature antique, et on la retrouve pratiquement tout au long de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et même de la Renaissance. Donc, c'est une idée qui n'a rien d'original. Vous pouvez lire, par exemple, Voltaire, hein, sur les voyages de Micromégas. Vous pouvez lire les aventures du baron de Münchhausen, qui va rencontrer les habitants de la Lune. Ou encore Cyrano de Bergerac, avec les chroniques des États et empires de la Lune et du Soleil. Par exemple. Donc les œuvres ne manquent pas pour montrer que les gens n'imaginaient pas que seule la Terre était le centre de l'univers peuplé d'êtres humains et que l'univers était bien plus diversifié que cela. Alors, du coup, supposer que la vie soit omniprésente dans l'univers suppose que, bien entendu, la vie n'apparaît pas sur Terre, ou en tout cas pas que sur Terre, et donc elle apparaît ailleurs. Donc ce qui veut dire aussi que cette hypothèse aujourd'hui qui est presque anthropocentrique et qui consiste à affirmer que la vie est apparue forcément sur Terre et pas ailleurs, en tout cas pas dans un voisinage proche, c'est une hypothèse qui est presque anthropocentrique quand on y pense. Voilà, c'est ça qui est un peu étonnant comme façon de penser. Alors non, ça n'a pas été comme ça. Hein. Jusqu'au 19e siècle, l'hypothèse en vigueur, c'est celle de la panspermie, c'est-à-dire qui consiste à imaginer que la vie naît uniformément dans l'univers et qu'ensuite elle va se répartir là où elle va trouver un milieu favorable. Voilà. Et lorsque les choses vont, l'affirmation va devenir plus difficile à soutenir, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, quand les astronomes commencent à voir quelles sont les conditions physiques, chimiques sur la plupart des planètes du système solaire, lorsque les astronomes vont commencer à dire oui, mais bon, c'est peut-être difficile de vivre sur Saturne parce qu'il fait trop froid, ou c'est peut-être difficile de vivre sur Mercure parce qu'il fait trop chaud. Là, les astronomes vont dire aux gens de faire marche arrière en disant non, les autres planètes du système solaire ne sont pas habitées. Et donc, du coup, là va naître l'hypothèse qui est que si on ne voit pas la vie ailleurs dans le système solaire, c'est que la vie a dû apparaître spontanément sur Terre. Alors, c'est une idée qui a choqué. C'est une idée qui a choqué en elle-même. Louis Pasteur, par exemple, le grand biologiste français, était un adversaire convaincu de l'idée de l'apparition de la vie sur Terre. et il lui avait donné le surnom qui lui est resté d'ailleurs depuis. Il parlait de l'abiogénèse, A-B-I-O, donc A-B-I-O-G-E-N-E-S-E, c'est-à-dire pour dire la vie apparaissant de rien, donc, ce qui était une sorte de sobriquet donné à cette théorie. Alors, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est pas faute d'avoir cherché des traces de vie ailleurs dans l'univers, mais que pour l'instant, il y a autant de preuves pour que de preuves contre, c'est-à-dire on trouve des traces de composés organiques dans des nébuleuses, sur des planètes du système solaire, etc., mais sans que l'on trouve clairement des traces de vie. Bon, ça c'est la première chose. Mais ça ne prouve pas non plus que ce soit impossible, c'est-à-dire que l'univers s'est tellement dilué avec son expansion que désormais la Terre est tellement isolée qu'il est difficile de dire que, puisqu'il n'y a pas de vie dans le voisinage de la Terre, la vie n'existerait pas ailleurs. Alors, très récemment, le directeur de l'Observatoire d'Harvard et le directeur du département d'astrophysique, Abraham Loeb, a sorti une série d'articles dans laquelle il rappelle à la communauté scientifique que le travail des astronomes consiste justement à explorer l'hypothèse selon laquelle la vie serait apparue dans l'univers et non pas sur les planètes. Ce travail, il l'appelle la théorie de l'univers habitable. C'est un travail considérable qu'il a fait avec des généticiens, des biochimistes. Donc, ce sont des publications très importantes qui sont parues dans le journal Nature en particulier. Et ces publications, donc signées par l'Université d'Harvard, des publications de premier rang, eh bien, examinent l'hypothèse selon laquelle la vie ne serait pas apparue ponctuellement sur des planètes telles que la nôtre, on va dire par hasard, mais que la vie serait apparue massivement et dès le début de l'univers. Voilà, donc c'est une hypothèse qui prend complètement en contre-pied les schémas actuels et qui a le mérite de résoudre le problème des probabilités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez la probabilité pour que la vie ait pu apparaître sur Terre, la plupart du temps, vous trouvez zéro ou quelque chose de proche de zéro, alors que nous sommes là. Et la théorie de Loeb consiste à dire qu'elle a existé à un moment donné de l'histoire de l'univers, un moment où les conditions physiques et chimiques dans l'univers étaient favorables à l'apparition de la vie de manière uniforme dans l'ensemble de l'univers. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers habitable. Alors pour les gens qui ont fait un petit peu de physique, sur quoi se fonde cette théorie? Elle se fonde tout simplement sur le Big Bang. Si l'univers a été très chaud au moment du Big Bang, aujourd'hui on sait qu'il est très froid. Et en se refroidissant, à un moment donné, l'univers est passé par le point de l'eau liquide, ce qu'on appelle le point triple de l'eau. Et à un moment donné, il y avait suffisamment d'eau formée dans l'univers et la température était telle que de l'eau liquide existait presque partout. Il y avait suffisamment de composés organiques formés et du coup, la vie a pu apparaître de manière uniforme dans tout le milieu intersidéral, entre les galaxies, entre les planètes, entre les étoiles. Donc c'est cette théorie qu'a construite Abraham Loeb. Elle est tout aussi intéressante, tout aussi passionnante que la théorie de l'apparition de la vie sur Terre. Ensuite, l'univers se serait figé en s'étendant. Évidemment, il aurait formé le vide que l'on connaît et avec les oasis de vie telles que la Terre. Mais en attendant, c'est une théorie qui vaut le coup d'être creusée. Et donc, amis auditeurs, pensez à lire les écrits d'Abraham Loeb. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur dans l'émission Science et Conscience. À bientôt.